sans détour avec François Beauregard.
Bonjour tout le monde, ici François Beauregard, vous êtes à l'antenne de Canal M et c'est le Sans détour du 5 décembre. Aujourd'hui, on va parler d'art et de culture en bonne partie. Nous serons en compagnie des gens de Radio-Canada, Rachel Desjourdis et Jérôme Bergeron. Nous allons parler du grand sondage radio-canadien au sujet de l'accessibilité, de l'inclusion et une volonté d'amélioration de ce côté-là. Alors, on va savoir un peu comment ça se passe. Nous aurons de la grande visite de Mme Cindy Schwartz du groupe de l'organisme Les Muses, un centre d'art de la Seine, et qui fête son 25e anniversaire cette année. Alors, c'est magnifique. On parle avec Mme Schwartz de tout ça. Le projet Dream Voices, Voix rêvée, avec Thomas Gaudier et Réjeanne Bouger. On va parler avec eux d'art, en fait, qui est créé par des gens handicapés visuels, mais aussi qui est diffusé sur le web et qui, donc, non seulement la création, mais aussi la diffusion est un peu différent de ce qu'on voit à l'accoutumée. Mais avant de commencer tout ça, aujourd'hui, on est le 5 décembre, demain, nous serons le 6 décembre. C'est l'anniversaire de l'épouvantable et horrible féminicide qui a été perpétré à Polytechnique à la fin des années 80, on s'en souvient tous et toutes. Et pour parler un peu des conséquences de tout ça, des racines et comment naviguer là-dedans, on a avec nous notre chroniqueuse du bien-être, mais aussi, je dirais, de l'humain, Julie Châtelain. Bonjour, Julie.
Bonjour, François.
Comment ça va aujourd'hui?
Moi, ça va très bien. Et vous?
Ça va bien aussi. Mais c'est certain qu'il faut quand même faire une place à l'anniversaire qui est lourd du 6 décembre, qui est demain, de fait. Moi, je me souviens où j'étais le 6 décembre. J'habitais à ce moment-là, pas loin de l'Université de Montréal, au coin de Dessel et Édouard Montpetit. Et je me souviens très bien cette matinée-là d'avoir entendu des ambulances, puis une, puis une autre. À ce moment-là, on a l'impression qu'il se passe quelque chose qui est au-delà de l'ordinaire et dont on se souviendra longtemps. Malheureusement, c'était ça qui était ça. Comment vous avez vécu ça ou comment est-ce qu'aujourd'hui vous vivez ça, Julie?
Mais en fait, moi, j'étais trop jeune pour à ce moment-là. Moi, je vais avoir 40 ans dans quelques jours, donc c'est ça. J'étais trop jeune, mais... Par contre, comme je suis allée travailler rapidement, moi, quand j'ai commencé à étudier en éducation spécialisée, il y avait quelque chose qui m'interpellait au niveau de la violence conjugale. Oui. Je sais pas pourquoi, chaque fois qu'on travaillait là-dessus, quand j'étudiais, je me disais, moi, je vais aller travailler là-dedans à un moment donné, je le sais. Et c'est la première job que je suis allée faire après avoir eu mon diplôme. Je suis allée tout de suite travailler en violence conjugale dans un hébergement. Et à partir de là, j'ai commencé à m'impliquer autant au niveau du travail que au niveau du bénévolat. Et c'est comme si j'ai vraiment ça tatoué sur mon cœur, la prévention, les stratégies qu'on peut faire au niveau de la violence conjugale. En fait, la violence faite aux femmes, et là, parce que là, c'est vraiment les 12 jours. Parce que dans le fond, c'est oui, ça termine avec demain l'événement de la Polytechnique, mais c'est depuis le 25 novembre.
Oui, exact.
On est vraiment dans... C'est ça. Et là, c'est pour ça que je trouvais ça important, parce qu'il y a des gens encore qui vont dire, oui, mais pourquoi 12 jours? Pourquoi qu'on parle de la violence comme ça au niveau des femmes? Mais c'est quand même une femme ou une fille, dépendamment là, de l'âge, mais qui est tuée à tous les 2 jours au Canada.
Oui, exact. On en parle pendant 12 jours, puis on en parle peut-être davantage le 6 décembre, mais c'est quelque chose qui mine notre société toute l'année. Là. C'est pas...
Oui,
on devrait en parler tous les jours.
Ah oui, et surtout, on le voit là, avec la pandémie.
Oui.
L'augmentation, il y a eu... Parce qu'avant la pandémie, on ne parlait même pas de féminicide. Mais là, c'est rendu que maintenant, oh, OK, féminicide, là, 17e féminicide. Il y a vraiment eu une augmentation de 26% des féminicides.
Il y avait une façon d'appeler ça qui était un petit peu politiquement correcte. Là, on appelait ça un drame familial.
Oui.
Mais ça, généralement, ça voulait dire une femme qui était tuée par son conjoint ou son ex-conjoint.
Oui.
Puis des fois, il y avait aussi des enfants impliqués, là.
Oui.
Puis c'était toujours le même vecteur ou le même type de violence dont on parlait, là. C'était plus qu'un drame familial, là, où c'était un drame, oui, mais là, il faut quand même appeler les choses par leur nom, là. Avec la pandémie, puis le confinement, puis le manque d'accès aux ressources aussi, je pense, pour les femmes violentées, pour s'en tirer, comme vous dites, une augmentation de quoi, 26 % depuis…
Oui, 26 %
Oui, ben voilà.
Fait que c'est énorme, et c'est parce que oui, avec la pandémie, ben là, les femmes se sont retrouvées à être complètement isolées. Déjà, lorsque la violence conjugale, il y a un isolement qui se crée, mais là, avec la pandémie, ça a été encore plus dans l'isolement. Et là, tout d'un coup, on est confiné. On est confiné avec notre conjoint qui est violent. Mais voyons donc. Puis là, là-dedans, on ajoute les enfants, puis on ajoute les enfants qui vont plus à l'école aussi,
oui,
parce que là, tout d'un coup, l'école devenait un endroit où est-ce qu'on pouvait avoir quand même une idée plus facilement si c'était passé une crise ou à la maison. Alors, c'est pour ça qu'il y a eu une augmentation de 26 %, sauf que là, le problème, c'est que ça n'a pas ça diminue pas, même si là, la pandémie et le confinement est terminé. C'est qu'il y a une augmentation.
Ça reste au même niveau. C'est comme si le mal qui a été fait ne se guérit pas.
Non.
Et il y a aussi le fait que, je dirais, les ressources à la disposition des femmes victimes de violences conjugales ont subi un coup pendant la pandémie. Là.
Oui.
Et dans ce sens-là, l'accessibilité à une main secourable, c'est moins évident.
Oh oui, absolument. Et c'est pour ça que, tu sais, en fait, on ajoute en plus de ça, parce que oui, il y a eu une augmentation, mais on ajoute les femmes en situation de handicap.
Oui.
Et à ce moment-là, parce que c'est ça aussi qui arrive, c'est que c'est très peu documenté, parce que les femmes qui ont un handicap vont beaucoup, finalement, subir la violence et difficilement dénoncer, parce qu'elles sont dans une situation de dépendance souvent. Qu'est-ce qui se passe? Bien, souvent, ils vont rester dans la relation et on ne le saura pas plus. Mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a une augmentation lorsqu'il y a des facteurs de vulnérabilité qui s'ajoutent. Bien, c'est sûr que déjà, être une femme, avoir un handicap, que ce soit visuel, intellectuel, physique, on ajoute automatiquement un facteur de vulnérabilité. Et comme il y a une situation de dépendance, bien, la violence conjugale, c'est ça. C'est en fait, c'est un homme qui prend le contrôle. Il veut avoir le pouvoir sur sa conjointe. Alors, à ce moment-là, si on ajoute une situation où est-ce qu'il y a de la
dépendance, qui peut être à la fois des soins, qui peut être le transport, qui peut être financière. Il y a toutes sortes de formes de dépendance.
Ben oui.
Là, il faut pas. Et souvent, ça devient difficile pour les personnes qui en sont victimes de reconnaître le cycle.
Oui, exactement. Et parce que c'est ça, c'est que comme ils sont dans une situation où est-ce qu'ils dépendent du conjoint, mais le cycle devient comme compliqué parce que « Ah, ben, il est là pour moi, il m'aide. » Mais un cycle de violence conjugale, puis là, on n'est pas en train de parler de conflit, là. C'est pas un conflit entre deux amoureux, là. On n'est pas là. Un cycle de violence conjugale, c'est vraiment un climat de tension qui est là, constamment. Et là, tout d'un coup, le climat augmente au niveau de la tension, et là, il y a une crise. La crise, là, ça n'a pas besoin d'être physiquement nécessairement, parce qu'il y en a souvent qui vont dire « Ouais, mais il ne me frappe pas. »
Non, mais ça peut être psychologique, ça peut être les mots aussi peuvent blesser.
Exact. Donc là, à ce moment-là, il y a une crise. Là, souvent, c'est un moment où est-ce que la femme, elle essayait de se positionner, puis là, l'homme doit lui faire comprendre que non, c'est moi qui ai le dessus. Fait que là, il y a une crise. Après ça, qu'est-ce qui se passe? C'est une phase de « Ah, ben là, j'aurais pas dû » ou « C'est toi qui m'as provoqué » ou blablabla. Bla, bla.
Ben, une rationalisation là, de qu'est-ce qui s'est passé. Il y a une raison qui est généralement toujours la faute de la victime.
Exactement.
Ou c'est circonstanciel. Puis là, il y a une démonstration de remords, de promesses. Puis là, il y a une accalmie pendant X temps. Là. Puis après ça recommence.
Une lune de miel, qu'on appelle. Mais là, c'est parce que le problème, c'est que au début, la lune de miel est plus longue que la crise et la tension. Mais plus ça avance, le cycle, en fait, c'est ça aussi, c'est que ça diminue. La lune de miel est de plus en plus courte et les périodes de violence sont de plus en plus longues. Et en fait, c'est ça qui fait que là, c'est le cycle qui s'installe. Et pour une femme, sortir de ça, c'est...
très difficile.
C'est vraiment très difficile. Et souvent, quand j'entends du monde, on se dit, ben, elle a juste à quitter. Hey. Non, c'est pas simple comme ça.
Si elle n'avait qu'à quitter, elles auraient toutes quitté.
Elles auraient toutes quitté, exactement. On fait juste penser, exemple, à une femme qui est sourde et qui doit quitter. Ben elle, là, comment qu'elle va quitter? Où elle va aller? Si elle va voir les policiers ne comprennent pas ce qu'elle dit. Fait que pour ça, moi, je m'implique au niveau de la Maison des femmes sourdes de Montréal. C'est vraiment une ressource. Ils ont vraiment une expertise au niveau de la violence conjugale qu'ils ont développée, que je les ai amenés à faire un partenariat avec des maisons d'hébergement. Mais c'est ça, c'est de dire à quel point c'est difficile parce que les ressources que tu pourrais aller, ils ne comprennent même pas le langage.
Oui, c'est pour ça que les femmes en situation d'handicap sont le taux de violence est au moins le double.
Oui. Ça, c'est clair. Et c'est une femme qui a un handicap visuel. Tu quittes comment? Tu sais, comment tu c'est pas juste sortir dans la rue puis se pousser quand il y a une situation de violence parce que c'est ça que des femmes pourraient faire, là, genre ils ont fait un petit bagage qui est dans leur voiture puis sont prêtes à partir.
Oui, mais...
Et là, on ajoute handicap visuel, puis là, comme je dis, là, handicap physique, chaise roulante, même chose. Il faut quitter rapidement.
Les barrières sont terriblement hautes. Il y a des ressources même, il existe je sais qu'il y a des portes de sortie qui sont disponibles. SOS, violence conjugale, entre autres. On ne peut pas passer d'une maison à l'autre, mais il faut simplement être vigilant si on est conscient qu'il se passe quelque chose dans notre entourage aussi.
Pour aider
les gens
qui sont
à s'en sortir.
Ouais.
Parce qu'il ne faut pas dire « Ah, c'est pas de mes affaires » ou « Je m'en mêle pas » ou « il faut être capable de le reconnaître quand ça se passe à côté de nous.
» absolument.
Merci beaucoup, Julie. On va terminer en soulignant que demain, 6 décembre, de midi à 13h30, à la place du 6 décembre, ça, c'est pas tellement loin du chemin de la Reine-Marie, et Côte-des-Neiges, dans ce coin-là, il y aura une commémoration pour les 14 victimes du massacre de Polytechnique de 1989. Voilà, puis on devrait continuer à en parler. Puis pour les femmes en situation d'handicap, puis qui sont marginalisées aussi de d'autres façons.
Exact. Trans, autochtones, c'est ça. Le visage de la violence conjugale change aussi à ce niveau-là parce que c'est plus juste une femme comme on pourrait dire. Tu sais, il y a vraiment quelque chose de plus large maintenant.
Tout à fait. Puis la vulnérabilité augmente à ce moment-là. Bien, merci Julie. On se reparle après les fêtes.
Oui, bien, je vous souhaite des excellentes fêtes.
À vous aussi.
Merci, au revoir. Thank you.
habrá un lugar para cada despertar, un jardín de paz y de poesía. Porque puestos a soñar, fácil es imaginar esta humanidad en armonía.
La CBC, Canadian Broadcasting Corporation, la Société Radio-Canada, a engagé un dialogue ou souhaite engager un dialogue avec les Canadiens et Canadiennes en situation d'handicap afin de rendre le diffuseur public plus accessible et plus représentatif. Alors, nous avons le plaisir d'avoir en notre compagnie Mme Rachel Desjourdis, responsable de l'accessibilité à Radio-Canada, et M. Jérôme Bergeron, premier administrateur du Plan national d'accessibilité. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur.
Bonjour.
Bonjour.
Je vais d'abord me tourner vers M. Bergeron. En quoi consiste exactement cette politique-là? Qu'est-ce que vous venez de lancer comme dialogue?
Alors, on lance la discussion avec les Canadiens et Canadiennes, comme vous l'avez bien dit, sur l'accessibilité, la représentation des personnes en situation de handicap d'un bout à l'autre du pays. Vous savez, Radio-Canada veut incarner le Canada d'aujourd'hui, refléter la diversité du pays. Donc, ça veut dire également représenter la réalité des personnes en situation de handicap. Alors, on est en train de créer notre premier plan national sur l'accessibilité qui sera complété au mois de juin. C'est un plan dans lequel on va se fixer une série d'objectifs pour les trois prochaines années pour mieux représenter la réalité des personnes en situation de handicap, également mieux inclure cette population au sein de nos contenus et au sein de l'entreprise aussi, lorsqu'on parle d'embauche, entre autres.
D'accord. Et Mme Desjourdis, vous êtes responsable de l'accessibilité, donc c'est vous qui avez le mandat d'assurer l'accessibilité et comme le soulignait M. Bergeron, ça peut être plusieurs vecteurs.
Oui, absolument. Alors moi, ma responsabilité, je travaille au sein pour l'organisation au complet, également au service anglais et service français de CBC Radio-Canada. Et moi, mon rôle, c'est d'harmoniser nos efforts d'accessibilité, de faire en sorte qu'il y ait une cohésion entre les différents secteurs. Évidemment, le rôle de l'accessibilité, c'est pas un rôle d'une personne, mais moi, ma responsabilité, c'est vraiment de lancer ce plan-là, de voir que ça colle aux réalités des personnes vivant avec un handicap à travers le pays et d'assurer que on garde nos efforts sur le mondial de l'accessibilité.
D'accord. Parce que j'étais sur le site de votre programme, puis je vois qu'il y a à la fois des enjeux ou des préoccupations de votre part, et c'est tout à fait louable, sur d'abord l'accessibilité des lieux, savoir est-ce que c'est facile de s'y rendre, de s'y reconnaître. Il est question aussi de préoccupations au moment de la création, de quel côté, que ce soit devant ou derrière la caméra, si on peut faire ça vite dit de cette manière-là. L'accessibilité des moyens de diffusion. Est-ce qu'on peut avoir de la vidéodescription ou des retranscriptions de ce qui s'est dit ou de ce qui a lieu à l'image. Et puis finalement, il y a la question de la représentation aussi qui. Alors, ça fait c'est large, ça. Ça fait beaucoup de chantiers en même temps. Est-ce que vous avez l'ambition d'être capable de cocher toutes ces cases dans un laps de temps raisonnable?
Mais premièrement, j'aimerais juste dire que c'est pas un exercice pour nous de cocher des cases, c'est que vraiment la progression en contenu.
D'accord.
Nous, je pense que le projet, le conquête pour ce projet, c'est vraiment dans le cadre de la loi canadienne sur l'accessibilité qui nous demande de recenser c'est quoi les obstacles, c'est quoi les occasions qui sont ouvertes à nous dans cette chantier d'accessibilité. Vous en avez nommé plusieurs. Il en manque quelques-unes.
Oui.
Il en manque l'approvisionnement, c'est okay. Comment on achète ou on fait des choix de biens ou de services accessibles. Il manque on a parlé de l'emploi, on a parlé de nos contenus, les technologies, le milieu bâti. Il y en a plusieurs. On ne compte pas y arriver dans 3 ans, mais on veut faire du progrès et on veut que le progrès qu'on fait reflète les priorités qu'on a en tant que personnes en situation de handicap.
D'accord. Bien, ça, c'est, je pense que c'est la bonne manière de s'y prendre. Tout à fait. Vous avez raison. Monsieur Bergeron, ça va prendre la forme de consultations qui sont déjà entreprises, je pense.
Oui, on a déjà commencé ces discussions depuis il y a 2 semaines, 3 semaines environ. On s'est déjà déplacé dans l'ouest du pays, du côté de Vancouver, Victoria, également à Regina. Donc, ce sont des groupes de discussion qu'on tient vraiment au total dans 7 villes. Il y en aura 27 consultations au total dans 4 langues, en français, en anglais, en langue des signes québécoise et en langue des signes américaine, en anglais, donc également au cours des prochaines semaines. Ce qu'on veut savoir donc dans ces consultations, c'est, comme Rachel vous disait, quels sont vos obstacles lorsque vous consommez les contenus de CBC, de Radio-Canada. Et vous savez, on a fait des partenariats, on a conclu des ententes avec des bibliothèques d'un peu partout au pays pour tenir ces consultations-là.
D'accord.
Parce que les bibliothèques veulent elles aussi devenir plus accessibles. Alors, ça fait partie de nos questions, hein, vos obstacles quand vous consommez nos contenus, mais également ceux des bibliothèques.
Oui.
On veut en savoir davantage sur la représentation de la réalité des personnes dans les médias et notre façon d'améliorer nos relations avec ces communautés.
À Montréal, et c'est demain, j'ai regardé un peu le calendrier de vos consultations, demain 6 décembre, il va y avoir des consultations en français en personne de 18h à 19h30, si je ne me trompe, ça a lieu à la Grande Bibliothèque au centre-ville?
Exactement, au centre-ville de Montréal, à la Grande Bibliothèque, vous l'avez dit, dès 18h. On a également, en après-midi à 14h, une séance en virtuel pour les Québécois, les francophones d'ailleurs au pays, qui aimeraient pouvoir participer demain en après-midi. Il y a un site web à retenir pour venir vous inscrire.
Tout à fait.
C'est le cbc.radio-canada.ca/consultation avec un S, tradeunion. Accessibilité. Alors, on priorise l'inscription, mais sachez qu'il est possible pour vous de vous présenter, même si vous n'êtes pas inscrit. Ce qu'on veut, en fait, s'assurer, c'est de faire des consultations entièrement accessibles. Alors, lorsque vous vous inscrivez, il y a moyen de me faire part de vos accommodements nécessaires. Sachez qu'on offre le suffrage en direct lors de ces séances.
Parfait. Donc, demain, en virtuel, de 14 à 15h30, pour les francophones Montréal, Québec et pour le reste du Canada. En personne, demain, ce sera de 18 à 19h30 à la Grande Bibliothèque. Et il y a également sur le site, si je ne me trompe, un sondage que l'on peut compléter qui au moins nous permet de donner un peu de substance là, à notre opinion et à permettre de que vous nous écoutiez, si je peux dire. Alors, ce sondage-là est disponible en tout temps en ligne, donc on peut...
On veut rejoindre le plus de Canadiens possible. Donc, effectivement, en ligne, il y a cette troisième option là, aller remplir ce sondage. On veut vous entendre là, sur la représentation des personnes en situation de handicap et sur vos obstacles.
D'accord. Je pense que la représentation est probablement là où l'évidence d'un fossé entre une population canadienne qui, selon les définitions, compte autour de 18 à 20 % de personnes qui peuvent se décrire comme étant en situation de handicap en même temps, la représentation à l'écran est quand même bien en deçà de ce chiffre. Qu'est-ce qui pose obstacle, d'après vous?
Je n'ai pas bien compris la question.
Qu'est-ce qui est l'obstacle principal que vous voyez à la sous-représentation dans les médias des personnes en situation de handicap? Parce qu'on en voit relativement peu. Mm-hmm. L'émission excellente 6 degrés est vraiment l'exception là, qui vient à l'esprit. Mais dans les autres dramatiques ou ainsi de suite, il y a relativement peu de personnes en situation de handicap qui sont à l'écran ou qui parlent à la radio.
Ça fait effectivement partie des questions qu'on va demander aux Canadiens. Vous disiez 22% selon le dernier recensement de la population canadienne est en situation de handicap, c'est-à-dire plus de 6 millions de personnes au pays qui vivent cette réalité. Alors, ça fait partie des questions qu'on va demander aux Canadiens, comment est-ce qu'on peut s'assurer de mieux les représenter dans nos contenus. Ça va faire partie également des objectifs qu'on compte se fixer, s'assurer d'avoir une meilleure représentation, pas seulement qu'effectivement dans les nouvelles, également dans nos séries dramatiques, etc. Ça fait partie des priorités, là, de CBC Radio-Canada.
À l'intérieur de CBC Radio-Canada, Mme Desjourdis, vous êtes déjà bien installée en poste. Est-ce que vous avez pu identifier ce qui semblait être les premières choses auxquelles vous deviez porter votre attention? Sur quel chantier travaillez-vous en ce moment?
Oui, alors je pense que ce qui nous préoccupe en ce moment, c'est vraiment tout le volet consultation, parce qu'on fait les consultations à l'externe, mais on fait des consultations à l'interne.
Ah, d'accord.
On veut comprendre également les obstacles au sein de nos effectifs, à la fois que le public fait face. Fait que moi, pour moi, c'est un changement de culture. C'est un changement d'attitude, c'est vraiment une ouverture. On a toujours des conversations, soit à l'interne ou à l'externe. Les gens comprennent pas qu'est-ce qui est un handicap.
Oui.
Fait qu'on est là. On commence vraiment de base et on identifie les obstacles, les occasions au fur et à mesure qu'on apprend. Et que les gens partagent leurs soucis et aussi leur espoir.
Oui,
pour
exact.
L'avenir.
Tout à fait. Ben, merci beaucoup à tous les deux, Mme Desjourdis, M. Bergeron. Alors, je crois comprendre que les consultations après ça vont déboucher en juin prochain sur un plan d'action et on pourra se reparler à ce moment-là de vos conclusions et qu'est-ce qui nous attend pour la suite. Merci.
Ça nous fera plaisir. Merci.
Merci. Après la pause, on reparle danse avec Cindy Schwartz.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour en compagnie de Mme Cindy Schwartz. Bonjour Madame, comment allez-vous?
Bonjour Monsieur Beauregard, ça va et vous?
Ça va très bien et on est heureux de vous avoir à l'antenne. C'est quand même fort, 25 ans cette année pour l'organisme Les Muses et vous y êtes partie prenante dès le début.
Oui,
vous n'êtes pas arrivé la semaine dernière, là. Les Muses.
Non. Les Muses, en effet, l'idée a mijoté même en 1991. Donc, ça fait presque 30 ans pour moi, mais ça fait 25 ans que l'organisme est fondé officiellement.
Et c'est un organisme qui, en fait, est unique au Canada parce que vous permettez à des personnes en situation de handicap de s'exprimer au travers des arts de la scène. Qu'est-ce qui fait que les Muses, ça fonctionne? Parce qu'au début, ça devait être pas facile. Vous commenciez avec pas beaucoup d'exemples autour de vous sur comment être capable de monter une école d'art de la scène avec des personnes en situation de handicap. Comment est-ce que vous avez entrepris tout ça?
Bien, effectivement, mais au début, c'était moi, comme enseignante en danse, qui voulait offrir tout simplement ce qu'on appelle aujourd'hui la médiation culturelle à des personnes que je ne voyais pas dans les cours que j'enseignais. Et je me suis lancée, tout court. Je m'ai pris les mêmes techniques que j'avais et je me suis dit, on va le faire et je vais l'adapter aux besoins selon la clientèle que j'aurai devant moi, qui dépendant de l'handicap aussi qu'ils avaient. À force de voir justement des réels talents émerger, j'ai voulu aller plus loin. Et alors, je voulais prendre le modèle des écoles supérieures dans les arts de la scène. J'ai engagé des artistes qui avaient une pratique eux-mêmes, qui étaient prêts à s'embarquer avec moi dans cette aventure. Et alors, on a adapté la formation qu'ils ont eue, si on veut, pour les personnes qui étaient avec nous, puis qui devaient quand même passer une audition. On voulait quand même voir un certain talent émerger. Oui. Je trouvais ça important.
C'était plus qu'un loisir, c'est une vocation.
Où là, c'était devenu en 2001 une vocation où ils devaient vraiment s'engager à temps plein pour un minimum de 5 ans. Dans le but de les former, mais de les intégrer dans le milieu professionnel existant, les compagnies professionnelles, la télévision, les compagnies de danse, compagnies de théâtre, etc.
Parce qu'on parlait tout à l'heure ici à l'émission, il y a quelques minutes à peine, avec les gens de Radio-Canada, puis on parlait entre autres de la sous-représentation dans les médias et dans les dramatiques. Les personnes en situation d'handicap et en fait, vous êtes à l'autre bout du spectre parce que vous travaillez à justement créer permettre à des artistes d'émerger qui vont peut-être permettre une meilleure représentation parce qu'il y a encore un vide là, entre ce qu'est la réalité des personnes en situation d'handicap et la représentation, je dirais, artistique de leur existence.
Ah, je suis entièrement d'accord. D'ailleurs, ça va petit à petit. On commence à voir certaines personnes. On commence à prendre surtout des personnes aussi que l'handicap est visuellement clair, ce qui n'est pas l'idéal parce que moi, j'ai évidemment des personnes en formation dont l'handicap ne se voit pas nécessairement.
D'accord. Oui.
Mais c'est ça, c'est que c'est vraiment aller de l'avant, continuer à créer ces rôles-là. Et nous, on accompagne nos finissants. Quand il y a une compagnie ou une production qui veut les intégrer, on est prête à les accompagner. Il y a des fonds qui existent d'ailleurs maintenant pour l'accompagnement dans des productions professionnelles de toutes sortes.
D'accord. Donc vous ne les abandonnez pas en disant, bien là, maintenant, prenez le téléphone ou attendez que le téléphone sonne, là, ce qui n'arriverait pas.
Oui.
Spontanément. Vous créez aussi des productions maison. Je pense que l'année dernière, au printemps, il y a eu Torpedo. Qui était quelque chose qui émanait des muses?
Ben, dans les faits, j'ai côtoyé une des missions des muses et de sensibiliser des artistes professionnels qui ont des compagnies. Donc, à travers les années, on les invite à observer et à venir auditionner et engager professionnellement nos étudiants. Mais Torpedo, dans les faits, appartient à la production des Pieds des Mains.
D'accord.
C'est vrai que Menka Nagrani, qui est la directrice de la compagnie, a enseigné chez nous avant de fonder sa compagnie. Mais elle, les compagnies comme Joe Jackie John, My One et les Orteils, et d'autres compagnies qui commencent maintenant aussi, comme Fil d'Or, Projet Jebel, Corpuscule Danse, qui commencent tous à vouloir engager, dans les faits, nos étudiants, c'est soit parce qu'on s'est côtoyés, ou des artistes souvent que j'ai invités à un moment donné à voir les possibilités qui sont ouverts, bien sûr, à aller plus loin et qui ont leur compagnie. Je pense juste au film Gabriel. Ben, Louise Archambault a passé plusieurs mois chez nous avant même de faire le film.
Oui, c'est vrai, tout à fait. Et il y a dans ce sens-là, vous avez, si je peux dire, produit des vedettes. Ou des artistes là, qui sont devenus avec lesquels le grand public est familier maintenant?
Un peu plus, oui,
un peu plus, oui.
Oui, parce comme Gabrielle Marion Rivard, effectivement.
Qui est celle à qui on plus spontanément on pense là, quand vous parlez du film Gabriel, c'est certain. Est-ce que vous voyez dans le milieu autour de vous une plus grande acceptation? Est-ce que votre présence a commencé à peut-être au début à déranger, là, mais est-ce que maintenant il y a plus de collaboration qui se fait?
Oui, de plus en plus, même des reconnaissances, je pense à Patrimoine canadien qui a une fonds pour la formation dans les arts pour les personnes qui se destinent à une carrière professionnelle comme artiste. Eux, ils nous reconnaissent depuis 2012 à peu près, comme étant une école supérieure avec des standards assez élevés. Ça fait que oui, ça commence à se voir. Les compagnies aussi, de plus en plus d'artistes, ben plus qu'on a d'artistes qui viennent observer ou d'artistes avec qui on communique, parce que on siège sur différents comités aussi d'artistes en général. Plus la sensibilisation, je pense, va de soi. On commence aussi à travailler avec l'École nationale de théâtre pour oui. intégrer de nos étudiants avancés, finissants, des fois dans leurs cours même. Et on okay. a l'Union des artistes maintenant qui reconnaît nos artistes au même titre que les artistes de notre école supérieure comme étant des finissants avec les mêmes accès.
Oui, et une formation de la même valeur. Donc,
oui, exactement.
Tout à fait. Et le processus d'audition, on va revenir à ça parce que c'est certain quand... je vais vous dire quelque chose qui a peut-être l'air grossier, mais tout le monde chante dans sa douche, hein? Mais ça ne fait pas de nous des chanteurs.
Effectivement.
Voilà. Alors, ce n'est pas parce qu'on se trouve amusant devant le miroir que ça veut dire qu'on a une contribution artistique qui va plaire à tous ou qui va passer l'écran. Là.
Absolument.
Il faut être, parfois être humble. Quand je sors de la douche, là, tout de suite, les cheveux de tout le monde s'irissent sur leur tête. Là. Alors, j'ai compris que c'était pas mon talent. Voilà. Comment ça marche, le processus? Quelqu'un qui veut démarrer, est-ce que ça vient de l'individu? Est-ce que ça vient de quelqu'un de son milieu? Comment est-ce que les gens vous abordent et qu'est-ce que ça implique?
Ça vient un peu de partout, l'individu, des fois quelqu'un autour de la personne, souvent aussi au niveau des CIUSSS, au niveau d'autres artistes qui connaissent quelqu'un avec qui on travaillait ou vu un petit quelque chose peut-être possible. Les compagnies, des fois aussi, qui, eux, vont faire de la médiation culturelle, par exemple, avec d'autres groupes.
Oui.
S'ils voient un petit talent émerger, ils vont en parler à la personne ou nous en parler pour voir s'il y a des possibilités à ce moment-là. Puis ensuite, le processus comme tel dure entre 3 et 6 mois d'audition. D'accord. Parce que, on s'entend, les personnes souvent vivant avec un handicap ne sont pas intégrées comme monsieur, madame, tout le monde, dans les loisirs ou dans les arts et études, oui. dans les écoles, parce qu'ils ont d'autres besoins. Donc, ils n'ont pas le même avantage qu'une autre personne quand ils passent une audition. Donc, nous, on a comme prolongé cette audition pour qu'on puisse les voir comme il faut et ensuite juger s'il y a un talent ou pas qui va émerger.
Et puis, il y a aussi, il y a quand même une question que le curriculum, ça suppose une disponibilité sur une longue période de temps. C'est plusieurs heures par semaine. Il y a des coûts aussi qui sont associés à ça.
Oui. Effectivement.
Ben, c'est inévitable.
Pour le moment, c'est par des ententes.
D'accord.
Avec les différents organismes.
Et pour ce qui est du nombre d'heures que ça puisse représenter, parce que est-ce que parfois il y a des situations où l'artiste en devenir, dû à la situation d'handicap, il y a peut-être des limitations sur le nombre d'heures consécutives sur la scène ou à l'enseignement. Parce que vous avez quand même plusieurs élèves en même temps, comment est-ce que vous êtes capable de composer?
Dans les faits, la personne doit obligatoire, en tout cas pour le moment, peut-être ça changera, mais pour le moment, la personne doit obligatoirement être disponible 25 heures semaine pendant 5 ans.
D'accord. Et ça, c'est dans la région de Montréal, oui.
Dans les faits, on est ouvert à toutes les régions. Si la personne a la possibilité... d'avoir tout ce qu'il faut pour venir à Montréal.
Exact. C'est ça. Quand je dis dans la région de Montréal, c'est parce que les Muses, votre studio...
Ah, nous, on est à Montréal,
Vous êtes à Montréal, oui, tout à fait. Vous avez combien d'élèves en ce moment?
En ce moment, parce que dans les faits, on garde aussi pour un certain temps nos finissants. En ce moment, on a à peu près 17.
D'accord.
On a juste deux groupes en ce moment, divisés.
Et tout cela, ça regroupe à la fois la danse, le théâtre, le chant. Est-ce qu'à un moment donné, il commence à se faire une distinction? Des gens ont plus de talent pour l'un que pour l'autre?
Oui, absolument. Dans les faits, ils ont des cours différents à chaque jour et à chaque session presque. Et à un moment donné, effectivement, on voit souvent émerger plus un talent qu'un autre, mais tant qu'il y en a au moins un, On va les garder, mais il faut qu'ils sachent qu'ils vont être formés quand même comme artistes le plus polyvalent possible.
Oui, oui.
Parce que même en théâtre, on peut avoir à chanter ou à danser à un moment donné, et même en danse de nos jours, avec la performance et toutes ces possibilités contemporaines, ça peut être qu'on chante ou qu'on joue.
Oui. Vous n'étiez pas à l'origine une artiste, vous étiez plutôt une enseignante.
Non.
Non, allez-y.
J'étais à la base une artiste.
D'accord.
Depuis mais en très jeune âge, en danse.
OK.
Et parallèle, je dirais, à ça, j'ai continué, ben, comme beaucoup de jeunes, je pense, surtout en danse, j'ai continué mes études par la suite en psychologie et éducation.
D'accord. Donc, vous étiez à l'origine une artiste. C'est moi qui suis dans l'erreur.
Oui.
Voilà. Donc, c'est votre ambition artistique a pu finalement se réaliser au travers, entre autres, de cet enseignement-là. Mais vous avez vous-même déjà interprété, puis vous avez déjà vous-même été sur la scène.
Oui, oui.
Tout à fait. Bon, ben, je voulais pas qu'on minimise votre carrière dans ce sens-là du tout. Ben, qu'est-ce qui se passe pour les muses au printemps qui s'en vient? Est-ce qu'il y a des spectacles qui vont ou des représentations, quelque chose qui va mettre en lumière vos finissants, finissantes?
Maintenant, les faits, il y a, bon, juste avant, on a en ce moment ce qu'on appelle, nous, ce qu'on a créé dernièrement aussi pour l'inclusion, un laboratoire inclusif.
D'accord.
Alors, on a pris 5 finissants de l'École nationale de théâtre, on les a mis ensemble avec 4 à 5 de nos finissants avancés pour travailler avec Isabelle Bartoviak, qui est aussi une metteur en scène, comédienne, qui leur donne une sorte de laboratoire créatif.
Okay.
Ensemble. Et ça, c'est par invitation, par contre, seulement, mais ça va être une sorte d'exercice public qu'on va faire en décembre. Ça, c'est nous. Par contre, c'est sûr que, comme nous, on ne produit pas les spectacles, on les intègre dans des compagnies professionnelles qui le font. Il y a plusieurs choses qui s'en viennent, plusieurs spectacles. Il y a, entre autres, le spectacle Brillante au Théâtre Denise Pelletier de janvier à février, qui inclut un de nos étudiants avancés. Il y a la compagnie Joe Jack et John qui continue à faire vivre Violette.
Oui.
Je crois aussi que la compagnie des productions des pieds et des mains continue aussi Torpedo, qui a joué dernièrement puis qui va rejouer, je crois, dans les maisons de la culture.
Exact. Oui,
je ne suis pas certaine. Il y a Maïwenn et les Orteils, dans les faits, qui est une compagnie de danse qui a un projet en cours pour le printemps, je crois, aussi. Dans les faits, ça arrête presque jamais.
Ben, c'est... Donc, il va y avoir toutes sortes...
Tous en tête.
il y a toutes sortes d'occasions dans les 6 prochains mois pour le public d'aller voir, entendre les artistes issus de votre école. Madame Schwartz, merci beaucoup d'avoir ouvert les portes très grandes à tous ces artistes qui ne demandaient qu'à éclore. Et puis, en espérant qu'on se reparle avant 25 ans.
Je le souhaite bien.
Merci.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
Le projet Voix rêvée, Dream Voices, est une œuvre d'art interactive accessible aux malvoyants, mais pas simplement accessible aux malvoyants, c'est aussi une œuvre d'art qui est issue, si je peux dire, en partie du vécu, de l'imaginaire et de l'aspect rêvé de la vie onirique de personnes en situation d'handicap visuel. Et ça, c'est assez spécial. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'avoir avec nous Réjeanne Bouger et Thomas Gaudy, qui, respectivement, Madame Bouger, vous êtes écrivaine et artiste, et vous êtes une des personnes responsables à la conception du projet. Et oui. M. Gaudy, ergonome et cofondateur de Ludociel pour tous et consultant dans l'accessibilité du projet. Alors, il y a deux aspects. Un, créer le projet. Deux, le rendre accessible. On va commencer par la création. Madame Bouger,
oui.
C'était quoi le plan? C'était quoi le projet? C'est quoi l'idée qui a germé?
Ben, en fait, je suis allée voir, moi, Yves Amiot du Centre Turbine, puisque c'est un projet qu'on a fait au sein de cet organisme culturel-là, parce que je travaille avec mes rêves depuis très longtemps du côté de mon processus d'écriture. Et j'avais proposé un projet à Yves, et c'est lui qui tout de suite a dit, mais on cherchait le public cible pour colliger des rêves, et il m'a dit, mais les personnes aveugles et les rêves, parce qu'il y a une grande curiosité de la part des voyants à savoir à quoi rêvent les personnes aveugles, soit celles qui sont aveugles de naissance ou celles qui le sont devenues. Donc, à partir de là, ça tombait bien, parce que moi, j'ai travaillé avec la communauté des malvoyants depuis très longtemps, à la magnétothèque quand j'avais une vingtaine d'années,
oui.
Et ensuite à l'INCA,
d'accord.
Donc du côté de l'enregistrement des
lignes. Magnétothèque, vous êtes à Canal M en ce moment, alors vous êtes de retour à la maison.
Bon, c'est ça. Mais j'étais de la première équipe avec André Hamel, tout ça, dans le temps qu'on était rue Chérié. Donc, je connaissais un peu cette communauté-là. Et rapidement, on a joint à notre équipe Chantal Dumas, qui est une artiste sonore, pour faire partie du projet. Et là, il s'agissait évidemment d'échantillonner, c'est-à-dire de trouver des gens, des personnes malvoyantes ou aveugles, aveugles de naissance ou pas, et d'aller les rencontrer pour qu'elles nous racontent un rêve. Et moi, je me proposais de faire un portrait de ces personnes-là, un portrait écrit, bien sûr, alors que Chantal Dumas, elle, de son côté, à partir des rêves qui nous ont été racontés, a créé un univers sonore, une bulle sonore autour de ce rêve-là. Ça dure environ 4 à 5 minutes, je vous dirais. Donc, voilà. Et là, on a donc 8 participants au total.
Oui.
Donc, voilà. Et c'est ce qui a été mis... C'est une œuvre numérique, en fait, qui a été mise en œuvre et rendue accessible. Thomas va vous en parler de manière plus spécifique. Mais le cœur du projet, c'était ça. C'est à quoi rêvent les personnes?
Oui, d'accord.
Voilà.
Ben, on va y revenir. Je voudrais juste que M. Gaudy, vous puissiez nous dire un peu comment vous avez créé un contenu accessible. Parce que c'est quand même Ludociel, vous êtes habitué à faire des contenus accessibles, alors pour vous, c'était pas sorcier, mais quand même, il faut le faire.
Tout à fait. Bonjour, merci pour l'invitation. Déjà, pour pouvoir créer un contenu accessible, il faut préciser qu'il faut avoir l'opportunité, la possibilité de le faire. En premier lieu, cette possibilité nous a été apportée par le Conseil des arts du Canada et le Conseil des arts et des lettres du Québec, parce que sans leur financement, évidemment, le Centre Turbine, épaulé par Folklore, n'aurait pas pu se lancer dans ce projet. Et après, l'accessibilité, il y a plusieurs formes d'accessibilité qu'on peut apporter. On peut viser une accessibilité complète, intégrale, pour toute forme de personnes, avec différents types de malvoyances, différents types de handicaps complémentaires, éventuellement moteurs, ou une accessibilité partielle, qui peuvent plus ou moins contenter certains types. Ce projet-là, il avait ceci de fabuleux, que ça apportait vraiment une réflexion sur un propos artistique, vraiment ciblé sur des personnes aveugles, et avec une restitution qui cible à la fois le grand public, mais aussi des personnes qui ne peuvent pas voir. Et après, la façon de faire, honnêtement, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs. Et pour que ça marche, il y a quand même une recette qui est essentielle, c'est qu'il faut faire des tests utilisateurs. Donc,
oui.
Il faut toujours mettre les personnes concernées au centre du processus. Et je dirais que quel que soit le projet, finalement, ça passe
c'est
par
comme ça.
Il y a
une expression anglaise qui dit « the proof of the pudding is in the eating ».
Hein,
alors, tant que vous n'y avez pas goûté, vous ne saurez pas si c'est bon.
Voilà. Et maintenant, cette œuvre, enfin, 16 œuvres, parce qu'on parle de 8 personnes qui racontent un rêve, et en même temps, Mme Bouger, vous en faites un portrait. Alors, il y a à la fois de l'écrit, ou dans ce cas-ci, du dit, et en même temps, il y a un aspect sonore à tout ça. Et là, il y a un site, parce que c'est une œuvre qui n'existe pas. C'est pas à la télé, c'est pas sur YouTube, c'est pas sur Amazon. Là, il faut aller sur le site pour être capable de la goûter. Simplement nous donner l'adresse avant qu'on l'oublie, parce qu'après tout ça, tout le monde va vouloir y aller.
Oui, Thomas, est-ce que c'est je te laisse le soin. Est-ce que c'est le HTTPS? Excusez-moi.
Allez-y, M. Gaudy, l'adresse pour accéder à l'œuvre.
Ben, je l'ai ici, moi. https://voix-revees.com/.
Bon, super.
Pour savoir, justement, attention.
Parfait.
Je pense que c'est important de préciser que sur cette histoire d'accessibilité totale ou partielle, on en est toujours à améliorer certains aspects d'accessibilité. L'expérience devrait être très satisfaisante pour la majorité des personnes, mais s'il y en a parmi vous qui éprouvez des difficultés de navigation, à moins d'une surprise, ces difficultés sont connues et on continue à travailler dessus parce que il y a des petites choses qu'on aimerait encore améliorer.
Moi, je peux vous dire, là, du point de vue d'une personne handicapée visuelle, qui a un résidu visuel. Moi, j'ai trouvé votre site facile à naviguer, mais ça, c'est mon expérience personnelle. Mais ce que j'ai trouvé surtout fascinant, c'est d'entendre et d'écouter à la fois la musique, la bulle sonore, comme vous disiez, Mme Bouger, et le texte, parce que je dois dire que plusieurs des 8 personnes handicapées visuelles qui sont qui racontent leurs rêves, je les connais déjà. Ce sont des gens. Alors, j'étais vraiment curieux d'entendre ce que telle ou telle personne avait à dire ou son ouais. univers intérieur. Là, ça, c'est. Et je pense que même pour quelqu'un qui ne les connaît pas, c'est vraiment très bien. Alors, la question, Mme Bouger, les rêves des personnes aveugles de naissance ou celles qui ont perdu la vue plus tard dans la vie, est-ce qu'il y a une différence?
Ben, en fait, je pense à Josué, là, qui était
oui.
le participant Josué qui était
Coudé,
de naissance.
Oui.
Josué Coudé, oui, exactement. C'est certain que c'est un univers sonore, hein, ouais. d'abord et avant tout pour Josué, avec peut-être certaines luminosités dans le rêve, comme il peut en percevoir vraiment dans sa vraie vie, mais tout passait par le son et par le sens du toucher aussi. Là. Donc, ça c'est évident. Ce qui avait de beau, par contre, chez des gens qui ont perdu la vue un peu plus tard, ce qui était dans le cas de la majorité des participants, c'est que je ne sais plus laquelle nous dit, mais quand je rêve, je vois encore.
Oui.
Et ça, c'est hein? et plusieurs même sont étonnés dans leur rêve de se voir et dit justement, mais c'est pas possible, je suis aveugle, je devrais pas être capable de voir. Il y a toute une dynamique qui s'installe. Ce qui est assez courant aussi, c'est que plus les années passent, plus les couleurs s'estompent. Le souvenir des couleurs s'estompe. Donc, je pense à Anne-Jarie qui m'avait témoigné de ça il y a déjà un bon moment. Donc, les couleurs, ça fadisse au fil des ans. Mais chez certains, donc, il y a des choses qui peuvent revenir visuellement très, très fort aussi. Donc, c'est un mélange de tout ça.
C'est vrai ce que vous dites. En fait, chacun a son expérience personnelle. Ce qui est vraiment touchant là-dedans, si je peux dire, c'est que les gens avec qui vous avez travaillé ont accepté quand même de parler de leurs rêves parce que c'est très intime.
Oui.
C'est qui ils sont, oui.
Oui, oui, tout à fait. On n'a pas fait, on n'était pas en thérapie, hein.
Non, je comprends, tout de même.
Non, je blague, mais je pense qu'on a un psychologue dans le lot, François Côté, qui lui travaille beaucoup avec ses rêves, avec ses patients. Puis c'est sûr, on a deux psychologues. On a Stéphane aussi, qui est aussi psychologue et qui a une approche psychanalytique dans sa démarche. Donc, c'est des gens qui étaient sensibilisés au domaine du rêve. Donc, oui, c'est vrai, mais je pense que les gens nous ont fait confiance. Je pense qu'on a créé un climat d'intimité quand même avec toutes ces personnes-là et c'est ce qui a fait que ces gens-là ont accepté, comme vous dites, de nous livrer quand même une part de leur intimité.
Et le résultat, je dois dire, est à la fois... Ça s'écoute très bien. Moi, j'ai passé l'après-midi avec vous, là, samedi, et puis ça, c'est intéressant, puis on veut prendre le temps d'écouter chacune des histoires, puis de l'arrêter, puis d'y repenser. plutôt que de les défiler. Alors, tout ça, c'est à voixrêvées.com. Madame Bouger, Monsieur Gaudy, merci beaucoup. Et
merci.
Puis j'invite tout le monde à se brancher puis à aller écouter.
Merci beaucoup.
Merci, au revoir.
Vous écoutez Sans détour avec François Beauregard.
De retour tous ensemble, nous allons avoir le plaisir de bavarder avec Camille Cusset, notre globe-trotter journalistique. Bonjour Camille. Camille, vous nous entendez? Ah, Camille est au bout du fil, mais peut-être qu'on a des petits problèmes. Mathieu travaille à ça. On va tout de même parler de notre revue de presse. Aujourd'hui, on va parler, entre autres, des tendances thérapeutiques pour les personnes qui vivent avec des troubles du spectre de l'autisme. Il y a eu dans le magazine américain Scientific American un article qui est paru il y a à peu près une dizaine de jours qui fait un peu l'historique de l'évolution des tendances thérapeutiques ou comment... Bonjour Camille, vous êtes de retour? Pas encore. Voilà. Alors, qui fait le tour un peu des...
À peu près.
Ah, Camille, vous voilà. Eh bien, Camille, quand vous y serez, vous élevez la voix et je vous laisserai toute la place, c'est promis. Alors, il y a 10 ans encore, les interventions visaient essentiellement à éliminer le comportement propre aux troubles du spectre de l'autisme, ce qui faisait essentiellement c'est une sorte de coercition et que les enfants neuroatypiques devaient le plus possible se conformer à un certain neurotypisme. On les obligeait à avoir des contacts visuels, ils ne devaient pas avoir de comportements qui pouvaient détonner ou qui les rendaient différents. Il fallait vraiment qu'ils se fondent dans la population. Évidemment, c'était plutôt... une question d'abrier ou de maquiller leur neuroatypisme plutôt que de l'accepter et de voir à ce qu'ils se sentent, je dirais, acceptés. Je pense que c'est le terme le plus juste. Alors, il y a eu beaucoup d'efforts pendant des années pour créer cette conformité neurotypique chez des gens qui ne l'étaient pas. Et qui ne cherchait pas à l'être. Une étude publiée en 2018 dans Molecular Autism a révélé en fait que le camouflage des troubles du spectre de l'autisme et les besoins de soutien qui n'étaient pas satisfaits en fait étaient reliés à un risque beaucoup plus grand, un risque accru de suicide chez les personnes vivant avec un trouble du spectre de l'autisme. Et on peut comprendre ça parce que vraiment, on essayait de les fondre dans un moule et ça devait être une situation particulièrement anxiogène. En outre, les efforts que doit réaliser le patient pour se conformer, évidemment, détournent sa charge cognitive vers des choses qui sont plus importantes. Alors, on lui demande de faire des trucs qui, finalement, sont accessoires, alors que son esprit, son énergie devrait être tournée vers autre chose. Camille, vous êtes là?
Oui, tout à fait.
Ah, vous voilà. Vous avez été retenu certainement aux douanes ou quelque
oui,
chose,
ça.
Là. Vous avez trop de nouvelles dans vos bagages. Hein? on vous a
ça
fouillé. Bon, ben, en fait, alors, on est en train de parler de l'évolution des tendances thérapeutiques chez les personnes qui vivent avec un trouble du spectre de l'autisme.
Oui.
Et ben, on va terminer là-dessus, puis maintenant, je vous lance la balle. Et
bon,
puis, on s'en va en Bretagne.
On s'en va en Bretagne. Je vais juste ajouter, puisque j'ai entendu...
Allez-y.
Puis, c'était très bien dit. Mais justement, oui, ces nouvelles tendances thérapeutiques vont permettre aux personnes qui sont dites atypiques, de pouvoir être en fait elles-mêmes, tout simplement. Et ça va aider notamment les jeunes enfants à mieux se développer au niveau de leurs compétences qui leur sont propres, sans avoir à ressembler justement à des neurotypiques. Donc neurotypiques, on se souvient, c'est ce qu'on considère comme étant des traits
psychologiques qui sont dans la moyenne, dans la normale, entre guillemets.
Oui. Mais,
c'est ça, avec cette nouvelle approche, on prend tous les cas, atypiques ou pas, et on les considère en fait tout simplement comme des humains, et l'approche thérapeutique est différente, même si elle ne remplace pas quand même tout ce qui est les traitements, par exemple, pour diminuer les comportements néfastes ou les comportements qui pourraient être agressifs.
Ou autodestructeurs, oui.
Exactement, tout à fait. Donc c'est ça, ça vient juste compléter et apporter une nouvelle vision, en fait, de la façon dont on peut traiter toute personne atteinte de TSA ou dans le trouble de l'autisme. Voilà.
Ouais, voilà, c'est
en Bretagne.
Maintenant, on traverse de American Scientific American, on s'en va maintenant en Bretagne, on va parler retraite.
Oui, tout à fait. Donc, quelque chose de très important hein, dans sa vie professionnelle. On en arrive là forcément à la fin. Donc, un nouveau dispositif a été mis en place par la Caisse d'assurance retraite et de la santé de la Bretagne. Donc, ils appellent ça la CARSAT. Et c'est un dispositif pour accompagner et pour préparer les travailleurs en situation de handicap pour qu'ils aillent vers leur retraite. En fait, la CARSAT Bretagne a imaginé une offre de service, donc à destination de ces travailleurs et de ces travailleuses, bien évidemment, en situation de handicap, qui arrivent donc à l'approche de la retraite. Et dans un premier temps, c'est surtout pour les rassurer sur les questions de l'isolement.
Oui.
Parce que, évidemment, quand on arrête de travailler, on se coupe un petit peu de ses habitudes et notamment de son cercle social. Et ça, c'est d'autant plus vrai pour les personnes en situation de handicap. Donc, la CARSAT a imaginé un dispositif qui va venir accompagner toutes ces personnes, aussi du côté administratif, donc tout ce qui est gestion des papiers, les nouvelles allocations et autres, mais aussi de ce côté social-là. Donc, c'est assez novateur et c'est plutôt bien accueilli. Actuellement, la CARSAT donc, s'occupe de entre 35 000 départs et entre 35 000 et 36 000 départs à la retraite, en fait, et parmi ces personnes.
Oui.
Oui, chaque année, c'est ça. Chaque année, et parmi ces personnes-là, entre 1200 et 1500 sont concernés donc par une situation de handicap, qu'ils soient moteurs, visuels ou auditifs ou autres. Et donc, souvent, ces personnes sont au sein d'établissements spécialisés pour le service du travail. Donc, ces établissements-là, en fait, ont rejoint le groupe de la CARSAT pour mettre en place ce dispositif. Et depuis 2014, donc il y a 86 établissements d'aide au travail qui ont intégré cette méthode-là. Il y a de très bons résultats. Donc ça, c'est ce qu'on apprend dans le quotidien Ouest France. L'article est sorti il y a quelques jours. Et plusieurs choses sont organisées aussi pour informer les gens de ce nouveau dispositif. Il y a deux journées d'information collective donc, qui ont lieu dans les quatre départements de la Bretagne, donc qui est dans le nord de la France, pour donc informer les gens de comment ça fonctionne. Il y a plusieurs participants, et là, on parle donc de la santé, de logement, de vie sociale, de droits et de ressources après donc la vie au travail.
Ben, ça, c'est pour, je vais vous dire, dans une vie antérieure, pendant plus de 30 ans, comme conseiller financier, j'étais à même d'aider des gens à préparer leur retraite et c'est autant les personnes en situation de handicap que tout autre. Le travail, le milieu de travail, c'est une grande partie de notre vie. On y passe 30-40 heures par semaine. Évidemment, aujourd'hui, avec le télétravail, c'est un peu différent, mais tout de même, et une partie importante de notre vie sociale, de notre réseau, est liée à notre emploi. Quand tout ça s'efface, ben là, on se retrouve un peu sans routine, sans quotidien. On perd de vue plein de gens qu'on connaît et avec qui, évidemment, on avait des intérêts communs souvent. Et on se retrouve à la maison un peu entre quatre murs, on se demande quoi faire. Et à ça, on peut évidemment ajouter l'angoisse financière, les ressources et le soutien que peut-être des personnes en situation d'handicap vont doublement ressentir. Alors ça, c'est une belle initiative parce que je dois vous dire que de mon temps, quand on préparait des gens à la retraite, on ne faisait jamais de cas à savoir si la personne ou non vivait aussi une problématique d'une situation de vie avec un handicap. Alors, bravo à la Bretagne.
Voilà. Et d'ailleurs, ça leur a valu un prix donc de la sécurité sociale, qui est l'équivalent de la RAMQ, québécoise. Et ils ont obtenu un prix grâce à cette initiative-là, donc qui s'accompagne d'une donation de 5 000 euros à peu près, donc on parle de 7 000 $ quand même. Puis les lauréats, donc qui ont remporté ce prix, ont décidé de faire don à une association.
Bravo.
Donc pour que ça puisse se développer à l'extérieur aussi de la Bretagne.
Ah ben c'est une belle initiative, on pourrait qui mériterait d'être imitée.
Tout voilà. À fait.
On parle techno maintenant avec Apple. Apple qui font des commerciaux, font des réclames publicitaires plutôt, qui sont très bien léchées. Là, c'est la musique est entraînante, les images sont belles, ça défile. Et ils viennent de se faire remarquer pour une publicité.
Oui, The Greatest, c'est le nom, donc le meilleur. Le nom de cette publicité, donc qui est vraiment axé sur l'accessibilité. Donc, c'est un spot publicitaire d'à peu près 2 minutes qui a été réalisé par Tim Gehring, donc qui travaille dans le marketing, et qui a été programmé pour la Journée internationale des personnes handicapées.
Qui était samedi dernier, hein, le 3 décembre.
Exactement. Tout oui. À fait. Donc, elle est sortie à cette date-là. Elle a été diffusée sur pas mal de réseaux, dont YouTube. Et là, actuellement, j'ai vérifié avant de descendre de mon avion. On a 13 millions de vues.
Ouh, 13 millions.
Ouais. Oui. Rien qu'en quelques jours, ça a déjà fait 13 millions de vues. Donc, c'est une publicité qui met en scène, en fait, 7 personnes qui sont en situation de handicap divers. Donc, que ce soit la vision, l'audition ou la motricité. Et c'est très, comme vous disiez au début, hein, c'est très bien liché. On se croirait dans un film, presque.
Ah oui, tout à fait.
Apple.
Oui, c'est The Greatest, ça vient du surnom de Mohamed Ali, parce qu'à la fin de ses jours, souffrant de la maladie de Parkinson, il avait consacré aussi une partie importante de sa fortune et de ses ressources à faire la promotion des personnes qui étaient exclues. Mais, si vous me permettez, je vais jeter un petit pavé dans la mare, Camille, parce que cette pub est très bien faite, elle est excellente. Cependant, l'article du magazine Clio qui parle justement de l'univers de la publicité, dans cet article du magazine Clio, et je vais me permettre de le dire en anglais, parce que ça mérite le prix Pouette-Pouette, quant à moi, quand le journaliste dit « Beyond that, it completely recasts disability from something that all too often considered subhuman into something superhuman. It reframes people with disabilities as heroes, constantly triumphing over adversity at almost every turn. » Alors, en fait, le journaliste dit c'est formidable comme film, comme pub, parce que très souvent, les personnes en situation de handicap sont des personnes de seconde zone, vraiment malheureux. Mais cette publicité en fait des personnes surhumaines, formidables, qui font des choses extraordinaires. Alors, moi, je répondrais à ce journaliste-là, vous avez raison, c'est vrai que souvent dans les médias, il y a beaucoup d'apitoiement quant aux personnes en situation de handicap, mais d'être peint comme étant des super personnes extraordinaires qui font l'épicerie, même s'ils sont en fauteuil roulant, ça, on n'en a rien à cirer, parce qu'on est juste des humains qui adonnons avoir un handicap, point à la ligne. Alors, notre vie n'est pas un film... Fantastic Four, là. Hein, on n'est pas des super-héros parce qu'on existe. On fait ce qu'on peut à l'intérieur d'une société qui n'est pas toujours adaptée à nous. Point à la ligne. Alors, c'est gentil ce qu'il voulait dire, mais en même temps, c'est toujours un peu comme ça. Ou bien on est des héros, ou bien on est des héros, mais dans les médias, on est rarement juste des gens. Voilà, il fallait que je le dise. Je m'excuse.
Non, c'est
en lisant l'article, là, il y a un petit peu de vapeur qui est sortie. Oui.
J'imagine. Mais je me demande d'ailleurs si ça vient pas justement avec l'univers Marvel et tout, un petit peu avec les.
Il y a ça aussi, c'est sûr que. Ouais. Tout le monde aime bien Daredevil, là, le super-héros aveugle. Mais cela dit quand même, c'est vrai que dans les représentations, dans les médias, il y a souvent cette tendance que la personne. La trame narrative porte justement sur la problématique de la personne handicapée. Alors que cette personne pourrait être simplement figurant ou figurante ou un personnage qui ne fait qu'être quelqu'un, point. Quand cette dramatique porte sur la situation de la personne handicapée, ça va être soit parce qu'elle est épouvantablement malheureuse et objet de pitié, ou bien c'est parce qu'elle est extraordinaire et qu'elle fait des trucs que personne d'autre ne pourrait faire. Et ça, Camille, je dois vous dire qu'on entend assez souvent quelqu'un qui va, en parlant du handicap avec lequel l'on vit, qui va nous dire « Ah, moi, je ne serais jamais capable. » Les gens qui m'ont dit là « Ah, vous êtes handicapé visuel. Ah, moi, je ne serais pas capable. » Ben, c'est pas vrai que vous ne seriez pas capable. L'esprit humain, là, est plus fort qu'on pense. Et avec un peu d'aide et dans les bonnes conditions, on est tous capables d'affronter les épreuves. Mais voilà, les gens valident. C'est une forme de validisme, ça, mais subtil.
C'est ça, en fait.
Voilà,
c'est
voilà. Bon, alors. Camille, vous avez eu le droit à double ration d'éditorial, là. Désolé.
À la décharge du journaliste qui vient de prendre vos foudres, il dit quand même que Apple fait une publicité et que, bon, évidemment, c'est du placement de produits.
Oui,
tout ce
ça,
qu'il
c'est
présente
sûr.
Pour cette publicité, ce sont des applications, évidemment,
qui sont utiles.
Qui favorisent l'accessibilité, oui, mais qui, c'est ça, qui sont un petit peu, et en plus, accessibles jusqu'à quel point, parce qu'on ne parle pas du prix.
Ah, oui, c'est sûr que la super montre, là, elle ne se détaille pas à 49$, voilà.
C'est ça, très certainement. Donc voilà, en tout cas, bon, c'était le spot publicitaire d'Apple, à voir s'il y en aura d'autres plus ou moins.
Sur lequel j'ai surfé un peu, je dois le dire. On va faire une pause et on revient dans deux petites minutes.
Parfait.
Bon, alors, on s'est calmé ici, derrière le micro à Canal M, mais on n'en pense pas moins. Voilà. Ouais. Allez, Camille. Maintenant, on va parler de choses qui réjouissent le cœur de tous. Hein, on va parler de Noël. Et comment répandre la joie autour de soi?
Exactement, avec une belle vidéo de sensibilisation sur les cartes de Noël inaccessibles. Donc, le RAM, a préparé une vidéo pour sensibiliser, en fait, toutes les personnes et surtout les proches de personnes qui vivent donc sont avec un handicap visuel en fait sur l'enjeu de l'accessibilité des cartes de vœux parce que c'est bien beau de recevoir une carte de vœux mais quand on ne peut pas la consulter ça doit être un petit peu désagréable
Donc, c'est pour ça que le RAM a fait une vidéo de sensibilisation. Donc, c'est un clip d'une durée d'une trentaine de secondes à peu près qui montre comment c'est incohérent d'envoyer une carte illustrée à une personne ayant une déficience visuelle, en fait, sans inclure de description ou de texte de remplacement. Donc, pensez-y pour tous vos proches qui vivent avec un handicap visuel. N'oubliez pas d'inclure ça, des descriptions ou des textes de remplacement.
Oui,
Oui.
Oui, tout à fait. Et donc, dans le clip, je pense qu'on voit quelqu'un plein de bonnes intentions qui envoie une carte.
C'est ça exactement. Donc, voilà, mais même malgré les bonnes intentions, ça peut être problématique à la fin.
Ouais,
malheureusement.
Tout à fait, exact. En fait, c'est d'autant plus vrai parce que maintenant, il y a aussi la mode d'envoyer des cartes électroniques, par courriel. Alors, parfois, cette carte-là, on ne peut même pas la palper. Il faut trouver le lien, cliquer dessus. Puis là, il apparaît quelque chose à l'écran, mais souvent, ça va être une imagerie assez complexe qui n'est pas tout à fait facile à saisir, à décrypter. Exact. S'il y a de la musique, ça, c'est mieux. Il y a même des cartes en papier qui sont sonores. Hein. Vous ouvrez la carte, puis ça fait une petite chanson de Noël. Alors ça, déjà, c'est bien. Mais je pense qu'il n'y a rien qui remplace effectivement une petite description sonore. Des fois, d'enregistrer un petit clip de 10 secondes, 15 secondes, et puis d'envoyer ce clip-là comme une carte de Noël sonore aux gens que l'on connaît, ça se fait aussi. Hein? Vous pouvez faire un petit clip « Bonjour, mes meilleurs voeux pour Noël et la nouvelle année », ainsi de suite. Puis là, vous prenez ça comme un petit dossier en annexe de votre courriel. Comme ça, la personne clique dessus, puis ça, avec les haut-parleurs de son ordi ou son téléphone, peut entendre votre voix qui souhaite un joyeux Noël. C'est fait. Et vite fait, bien fait. Parce que des cartes illisibles, des fois, on ne sait même pas d'où ça vient. Alors là, vraiment, on est à côté de la marque.
C'est ça. Vous parliez des courriels dans le clip du RAM.
Oui.
Il y a une scène où il y a un écran d'ordinateur en fait qui s'affiche avec une image de Noël dans un courriel. Et la vidéo, elle mentionne très rapidement qu'il existe deux options pour rendre une carte accessible. Et elle redirige les gens vers une page web en fait qui inclut la procédure à suivre pour ajouter que ce soit la description de l'image ou du texte. Donc ça peut être aussi une option si vous vous tenez vraiment à envoyer un courriel en guise de carte de Noël. Vous pouvez passer par le clip du RAM qui vous expliquera comment faire.
Ah ben ça c'est bien. Bon ben voilà une bonne nouvelle, quelque chose, parce que c'est maintenant qu'on les fait les cartes. Hein, si les gens veulent les si on veut que nos amis, nos connaissances reçoivent la carte avant Noël, c'est aujourd'hui qu'on fait ce genre de truc-là. Maintenant, l'effet pervers d'une décision connue rendue récemment par la Cour suprême.
Oui, en fait, la Commission des droits de la personne a eu un petit peu pas l'obligation, mais bon, elle a fermé en fait 194 dossiers qui étaient relatifs à des plaintes liées à de la discrimination. Après la décision donc de la Cour de justice dans l'affaire Mike Ward et Gabriel.
Jérémy Gabriel. On rappelle pour ceux qui n'ont pas vraiment écouté les nouvelles depuis 3 ans, on sait que Mike Ward est un comique qui fait du stand-up là et c'est un humoriste québécois qui parfois donne dans l'humour grinçant. Et s'était permis ou avait fait des blagues au sujet de Jérémy Gabriel, un jeune homme du Québec qui avait été chanté devant le pape, ainsi de suite. Jérémy vit avec un handicap qui lui donne, je dirais, une apparence peut-être inhabituelle. Dans ce sens-là, Mike Ward, lui, avait fait une blague à ce sujet. Jérémy Gabriel s'était senti... très blessé de l'affaire et avec...
Oui,
ça s'était rendu jusqu'en Cour suprême. Mais la Cour suprême a tranché en faveur de Mike Ward en disant que ce n'était pas insultant dans la mesure où une tierce personne n'était pas influencée nécessairement.
C'est ça. Puis que sa dignité n'était pas touchée.
Oui. Exactement. Bon, maintenant, on commencera pas à rediscuter du cas parce que ça pourrait être long. Mais...
Oui, et puis nous ne sommes pas juristes. Enfin, peut-être que vous l'êtes, et je ne sais pas.
Non, mon Dieu, non. J'ai des opinions bien arrêtées, mais ce sont les miennes. Alors, mais là, ça a donc un effet pervers. La Commission des droits de la personne doit fermer des dossiers.
Exactement. Parce qu'en fait, ce précédent-là, donc dans cette affaire-là, a créé que la réalité, puisque ça va être un fait de justice, qu'à partir du moment où une personne... n'est pas visée directement, où sa dignité, en fait, n'a pas été directement visée, puis qu'il n'y a pas eu de préjudice vraiment personnel, alors dans ce cas-là, la plainte ne se vaut pas. Et donc, pour des cas de discrimination en matière d'emploi, de logement ou autre, là, les plaintes sont toujours recevables. Mais à partir du moment où on reste un petit peu dans l'abstrait, dans ce cas-là, les plaintes ne sont plus recevables. Et donc, ça a donné lieu à la fermeture de 194 dossiers de plaintes qui étaient en cours.
Des plaintes qui avaient été déposées auprès de la commission, qui ne pourront pas être étudiées par la commission. Donc, les plaintes sont maintenant en lettres mortes.
Voilà.
Et ce n'est pas parce qu'elles sont... On peut même pas dire, étaient-elles ou non justifiées, elles ne seront tout simplement même pas examinées.
Exactement, pour tout ce qui concerne des propos ciblants de la discrimination sur l'origine ethnique, la langue, l'orientation sexuelle ou le handicap. Donc c'est très vaste et ça ne sera pas étudié. Et c'est ce que déplore quand même le président de la commission, donc Philippe-André Tessier, parce qu'il dit que l'interprétation de la Cour suprême va limiter les recours possibles pour la population et qui risque donc d'être victime de discrimination sans pouvoir aller jusqu'en cours, et il voit ça quand même comme un recul.
Ben oui, on peut penser que ça donne un petit peu plus de marge de manœuvre à des gens qui peuvent dire des choses blessantes sans être inquiétés. Hein? On va dire ça comme ça.
Exactement. Alors, c'est à suivre. Malheureusement, les précédents juridiques, ben c'est ça, ce sont des précédents, donc on peut les utiliser après en cours, mais bon. À suivre.
Ben ça, c'est vraiment un effet pervers. Mais évidemment, il y a toute la question philosophique de la liberté de presse et de la liberté d'expression et en même temps, du vivre ensemble et de là où il y a une limite qu'il ne faut pas franchir. Peut-être un jour ici, à Sans Détour, on pourra inviter des juristes et parler davantage de cette question-là être posée, mais ça pourrait faire le sujet de toute une émission. Ça, c'est certain. Avant de partir, HAYLEM, une entreprise québécoise basée à Terrebonne, spécialisée dans la conception et la mise en marché d'outils technologiques, le Lexibar, qui aide à l'apprentissage des personnes qui ont des difficultés, entre autres avec l'orthographe ou des choses comme celle-là, comme la dyslexie ou la dysorthographie, vient de mettre son logiciel à la disposition d'un tas d'institutions d'enseignement. On leur dit bravo. Là-dessus, Camille, on espère vous revoir la semaine prochaine.
Ben oui, moi
tout
aussi.
À fait. Et avec à la technique Mathieu Tessier, super opérateur téléphonique, et Mme Claire Guérin qui travaille jour et nuit à la recherche. François Beauregard vous dit au revoir, à la semaine prochaine.